Le journal, Amélie Perrier, bonjour.
Bonjour Émilie, bonjour à tous. Une campagne semée d'embûches pour Nicolas Sarkozy, le patron du parti Les Républicains, en lice pour la primaire de la droite et du centre, était hier en meeting à Chantilly, dans l'Oise, juste avant que son ancien conseiller, Patrick Buisson, ne prenne la parole sur le plateau de France 2. Ce dernier publie aujourd'hui un portrait au vitriol de l'ancien président de la République. Au même moment, hier soir, Bernard Squarcini, ex-patron du renseignement intérieur et proche de Nicolas Sarkozy, était mis en examen. Les mauvaises nouvelles s'accumulent, peu importe le prétendant à l'Elysée. Riposte Frédéric Mettezo.
L'ombre de Patrick Buisson est omniprésente, alors les premiers mots de Nicolas Sarkozy sont pour lui.
Avoir des amis fidèles, loyaux, j'ai conscience que c'est un privilège. On ne recule pas même devant la bassesse, même devant la trahison.
L'ancien président adopte sa position favorite, celle du persécuté, comme ses prédécesseurs.
Je sais ce que Georges Pompidou a dû affronter. Je sais ce que Valéry Giscard d'Estaing a dû affronter. Je sais ce que Jacques Chirac a dû affronter. Même François Mitterrand, ma sérénité et mon sang-froid sont au minimum égales à ceux dont ils ont su faire preuve à l'époque.
Et puis, pour chauffer une salle plutôt sage, Nicolas Sarkozy cible Alain Juppé.
Je ne laisserai personne vous voler cette primaire. Cette primaire, c'est celle du peuple, de la droite républicaine et du centre. Si certains veulent être candidats à la primaire de la gauche, qu'ils attendent François Hollande.
Juppé qui ratisse à gauche, Buisson, la Libye, Squarcini, ce n'est pas une bonne semaine, reconnaît un sarkozyste. Avant de philosopher, celle d'avant était plutôt bonne.
On a évoqué la mise en examen hier soir de Bernard Squarcini. L'ancien patron du contre-espionnage est soupçonné de violation du secret professionnel, de trafic d'influence et de détournement de fonds publics, alors qu'il avait quitté ses fonctions dans la police. Il est ressorti libre hier sous contrôle judiciaire. Il lui a interdit d'entrer en contact avec les autres protagonistes du dossier. Le point avec Nathalie Hernandez.
Il n'y a rien de très significatif, résume Patrick Maisonneuve, l'avocat de Bernard Squarcini. Ce qu'on reproche à son client ne sont finalement que des pratiques courantes.
Les faits, c'est un peu le panier de la ménagère. Il y a une longue liste. J'ai l'impression que l'on a fait appel pratiquement à tout le code pénal en ce qui concerne M. Squarcini. Mais ceci étant dit, ce sont des faits de violation du secret professionnel et autres qui seront discutés de toute façon dans le cadre de sa instruction. Pied à pied, parce que le dossier est assez dense, il y a une longue litanie, mais encore une fois, il est notoriété publique qu'il y a des contacts entre des anciens fonctionnaires, ou des anciens militaires d'ailleurs, et les fonctionnaires en activité. C'est ce que l'on reproche aujourd'hui à M. Squarcini, alors que c'est quelque chose et une pratique qui est connue et qui est assez courante.
En somme, des échanges de bons procédés, sauf qu'ici, les juges soupçonnent Bernard Squarcini d'avoir eu accès à des informations classées secret défense, dont certaines seraient liées à des affaires terroristes. Quant au détournement de fonds publics, le sujet a été habilement éludé.
Des peines de 2 à 4 mois de prison avec sursis requises hier au tribunal de Bobigny dans l'affaire dite de la chemise arrachée du DRH d'Air France. 5 salariés de la compagnie sont jugés pour les débordements du 5 octobre 2015 lors d'une manifestation devant le siège à Roissy. L'image de Xavier Brosetta fuyant les manifestants torse nu avait fait la une de la presse française et avait même été reprise à l'étranger.
6h34 sur France Culture, la suite du journal avec vous Amélie Perrier et un coup de théâtre sur le marché du pétrole.
Et oui, les pays producteurs de l'OPEP ont trouvé un accord pour réduire les extractions de brut réunies à Alger depuis quelques jours. Un consensus semblait impossible, tant les différents économiques, commerciaux, mais surtout géopolitiques bloquaient les négociations. C'est la première fois depuis 2008 que les États pétroliers décident ensemble d'une telle baisse. Seul moyen de faire repartir à la hausse des cours en chute libre. Explication avec Pierre-Yves Dugas.
L'accord de principe annoncé hier soir, à la surprise générale, demande à être traduit le mois prochain par une redéfinition des quotas de production qui garantira, pour la première fois depuis 8 ans, une baisse coordonnée de la production mondiale de pétrole. Cela ne pourra se faire que si l'Arabie Saoudite confirme son intention de ne plus produire le plus possible pour défendre ses parts de marché. Le quota accordé à l'Iran, ennemi juré du royaume saoudien, sera particulièrement intéressant à suivre. La baisse effective de la production d'un peu moins d'1 million de barils par jour ne pourra toutefois se réaliser que si la Russie, premier producteur mondial, suit le chemin tracé par l'OPEP. Les marchés surpris hier ont propulsé le baril de brut en hausse de plus de 5%. Le Brent européen se retrouve presque à $50, au plus haut depuis plus de 2 semaines.
La Russie pointée du doigt d'abord par ce rapport d'enquête de la justice néerlandaise. Le missile qui a battu l'avion de la Malaysian Airlines au-dessus de l'Ukraine en 2014, ce missile venait bien de Russie. Il a été tiré, toujours selon l'enquête, d'une zone tenue par les séparatistes pro-russes. Moscou a immédiatement dénoncé un travail biaisé et politiquement motivé. John Kerry, de son côté, menace de geler la coopération avec les Russes sur le dossier syrien. Le chef de la diplomatie américaine réclame la fin des bombardements sur Alep. Hier, les deux grands hôpitaux de la ville syrienne ont été pris pour cible et ont dû interrompre tous les soins prodigués. L'ONU a qualifié ces bombardements de crimes de guerre. C'est une page sombre de l'histoire du Brésil. La condamnation de 74 policiers pour la mort de 111 prisonniers en 92 dans le centre de détention de Carandiru. Un jugement annulé en seconde instance. Pour les familles des victimes, l'heure est à la stupéfaction et à la colère. Correspondance à Rio d'Anvinia.
Ils n'avaient jamais été emprisonnés, mais les 74 policiers avaient bien été condamnés il y a 2 ans à des peines lourdes pour cette tragédie connue comme le massacre de Carandiru. L'annulation de ce premier procès fleuve qui avait duré 20 ans, confié dans un premier temps à la justice militaire, a provoqué la colère des ONG de défense des droits de l'homme et des familles des victimes. Amnesty International au Brésil a qualifié la décision d'un des pires revers de ces 20 dernières années pour ce cas emblématique resté impuni. En seconde instance, donc, les juges ont en effet considéré que les policiers avaient agi en légitime défense face à une mutinerie. Une version combattue dès le début par le parquet qui a rappelé qu'aucun policier n'avait été blessé quand 111 prisonniers sont morts en moins de 30 minutes. La plupart avaient été tués à bout portant. C'est donc désormais la Cour suprême qui va avoir le dernier mot, ce qui laisse encore présager une longue bataille juridique et une nouvelle attente pour obtenir justice et réparation pour les familles des victimes.
Cela ressemble à une nouvelle bavure de la police aux États-Unis. Un homme noir, désarmé, souffrant selon sa famille de troubles mentaux, a été abattu dans la nuit de mardi à mercredi près de San Diego en Californie. Une manifestation a eu lieu hier dans le calme. Des funérailles internationales. Shimon Peres, l'ancien président d'Israël, mort hier, sera enterré demain sur le mont Herzl à Jérusalem. Le président américain Barack Obama confirme qu'il sera présent, tout comme Bill Clinton, François Hollande, le prince Charles ou encore le premier ministre canadien Justin Trudeau. On termine par le temps de ce jeudi en France. Le soleil s'impose largement, sauf dans le nord-ouest. Les températures 7 à 16 degrés en général ce matin. Cet après-midi, on attend 21 à Lille, 23 degrés à Nantes, 24 à Paris, 25 à Nancy et à Marseille, 26 degrés à Orléans et jusqu'à 30 degrés à Toulouse.